un pas de côté.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'évasion touristique en Vercordrome, un pas de côté. Un magazine réalisé en partenariat avec les offices de tourisme Vercordrome qui compte trois antennes à Saint-Jean-en-Royans, à La Chapelle-en-Vercors et à Saint-Nazaire-en-Royans. Et nous sommes en compagnie de Cécile Prahl de l'office du tourisme Vercordrome. Bonjour Cécile.
Bonjour Anouchka, bonjour à tous.
Nous en sommes déjà au numéro 37, donc pour cette édition d'octobre 2023 du Pas de Côté. Et nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'automne. Ça y est Cécile, le changement de saison commence à se faire sentir.
Effectivement, nous bénéficions actuellement de belles journées ensoleillées, mais nous allons progressivement arriver dans l'automne avec des belles couleurs du Vercors autour des dorés, argentés. Et puis voilà, on va tout doucement se plonger dans l'automne.
Les plaisirs de l'automne, donc à retrouver très bientôt. Du côté des reportages, ce mois-ci, nous nous intéressons tout d'abord à l'hostel Quartier Libre, donc, qui se situe au col de la Machine sur la commune de Saint-Jean-en-Royans, après cette route plutôt mythique de Comblaval. Et nous allons faire un tour d'horizon du lieu qui propose donc une offre d'hébergement ainsi qu'une restauration locale et de saison, de nombreuses activités et qui porte aussi de belles valeurs. Découverte avec Emlik de l'hostel Quartier Libre.
Un pas de côté.
Alors Emlik, pourquoi donc ce nom Quartier Libre ?
Alors Quartier Libre parce que au moins on a la liberté de faire plein de choses ici, mais avant toute chose, l'objectif c'était quand même de continuer à ce que ce lieu vive, puisque l'auberge Quartier Libre, avant d'être l'auberge Quartier Libre, c'était effectivement l'hôtel Faravelon au col de la Machine. C'était six générations depuis quasiment la création de la route en début des années 1900. On avait à cœur quand même de poursuivre cet héritage historique avec, en gros, on avait découvert une carte postale du début des années 1900 avec la photo du bâtiment et écrit « Centre d'excursion de Lente ». Et c'est un peu ça l'objectif de Quartier Libre dans le sens où, quand vous venez ici, vous aviez Quartier Libre de faire ce que vous voulez, d'aller randonner, d'aller vous poser dans l'herbe, lire un bouquin, de déguster une raclette, qu'il y ait plein de types d'activités qui sont possibles, aussi bien pour vous habitez dans le Royan et vous montez au col de la Machine, prendre l'air, profiter de ce lieu, et aussi bien pour les gens de passage en vacances. Essayer de redonner vie, d'une certaine manière, à ce centre d'excursion de la forêt de Lente, en ayant Quartier Libre dans ses activités. Et on avait à cœur, parce que les Faravelons, pendant six générations, ont occupé ce lieu. Et nous, on n'avait pas envie de balayer tout ce qu'ils avaient fait. Notre objectif, c'était aussi que ce lieu, il continue à vivre, qu'il continue d'accueillir des gens, parce que c'est sa fonction première, en fait. C'est accueillir du public et profiter des richesses, des paysages du Vercors et de ses activités.
Trois volets qui donnent aussi un sous-titre à votre activité.
Oui, on dit hostel, popote et aventure parce que on est à la fois une auberge avec des hébergements variés, aussi bien de chambres doubles au dortoir, donc pour accueillir aussi bien des personnes en famille, en couple, entre amis, que des groupes. On accueille des groupes également. On a le côté restauration et on a le côté aventure parce qu'on a à cœur de pouvoir promouvoir ce territoire du Vercors avec toutes les activités qui sont possibles, que ce soit de la randonnée, du biathlon laser, plein de choses à faire sur ce territoire. Ouais, on a de la chance d'avoir un beau paysage et en plus de quoi faire dans le coin.
Oui, vous êtes bien lotis en effet en la matière. Alors je le disais en introduction, une équipe, puisque vous êtes un collectif. On peut parler de finalement cette forme juridique qui donne vie à cette nouvelle activité.
Oui, tout à fait. On est une auberge coopérative, donc ça veut dire qu'on est en SCOP. Donc il y a les deux co-gérants, Karen et Olivier, avec leur troisième associé qui est Arthur, qui a été l'architecte qui a dessiné les travaux. Et derrière, on est encore une équipe de salariés pour faire vivre cette auberge. Et donc l'objectif, c'est que derrière, on puisse être plus nombreux à être au sein de la coopérative qui a un statut particulier, aussi bien d'un point de vue justement co-gérance, prise de décision. C'est un statut qui est beaucoup plus horizontal. On discute tous ensemble, on a des réunions hebdomadaires pour prendre des décisions sur le fonctionnement. Et c'est ça qu'on avait envie de promouvoir aussi, quoi.
Alors effectivement, ça nécessite peut-être plus de réunions, mais il y a un côté démocratique aussi partagé.
Exactement. L'objectif, c'est qu'on a tous, une opinion qu'on peut exprimer et on décide collectivement des directions qu'on a envie de prendre pour ce projet, parce que l'objectif, c'est qu'il se passe plein de choses ici.
On va y revenir dans quelques instants, justement, à propos de ce projet. Entre chacun son poste bien défini, ou vous pouvez des fois vous relayer entre les différents postes?
Alors, on a une équipe cuisine qui, pour le coup, c'est vraiment un poste particulier où on peut pas vraiment tourner. Donc, c'est vraiment des professionnels de la cuisine et on adore ce qu'ils font. Et par contre, nous, sur l'équipe opérationnelle, on va dire, on tourne aussi bien dans le service, l'accueil pour les hébergements, le ménage et toutes les tâches administratives et de gestion de projet, de conception d'événements, etc. Et là, pour le coup, on tourne tous un peu sur ces sujets-là. Ouais.
Alors donc, vous vous êtes retrouvés autour d'une motivation, d'une envie de faire rayonner cet établissement, d'être en harmonie avec l'environnement local, tant au niveau des approvisionnements ou du fonctionnement global?
Oui, à la fois, effectivement, le fait que cet établissement, il a une histoire. Les Phares Avelon, ils étaient là depuis 6 générations. On avait à cœur de continuer cette histoire-là. Et en plus, d'apporter notre touche en termes de valeur. Donc aussi bien, effectivement, comme vous le disiez, sur notre offre de restauration, on travaille sur une carte où tout est fait maison, où on travaille avec des produits locaux, bio, de saison le plus possible. Il y a vraiment l'envie d'amener à la fois du goût et des convictions dans l'assiette. Donc ça, c'est vraiment ce type de proposition qu'on a envie de faire. Et en plus de ça, sur le territoire, on travaille sur 2 échelles. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, on s'adresse à un public touristique qui est de passage dans le Vercors, qui vient découvrir le Vercors. Mais nous, on a aussi envie de s'adresser aux habitants du territoire du Vercors et du Royan. Et donc, on travaille un peu sur ces 2 échelles-là pour convenir aux envies de ces 2 types de publics. On a justement aussi à cœur de pouvoir proposer des choses pour les habitants. D'ailleurs, on travaille avec des partenaires locaux. Par exemple, on a des jeux à disposition et c'est des jeux qui nous viennent de chez Yoda, de la tanière à Saint-Jean. On travaille avec des producteurs locaux comme la ferme des Caillas pour le restaurant, pour le fromage. Et ça, c'est des liens qu'on a envie de tisser avec le territoire parce qu'on trouve que c'est ça qui est riche aussi, justement, de travailler avec et pour les gens du territoire du Royaume Vercors.
Alors, actuellement, vous êtes ouvert, là, on est en pleine vacances de février, hein, vous êtes ouvert actuellement au public. Alors, comment vous vous situez dans ces périodes d'ouverture?
Alors là, comme on est en période de vacances scolaires, effectivement, on est ouvert en 7 jours sur 7, sauf le mercredi midi, parce que justement, c'est notre réunion de coopérative. Et voilà, et donc là, déjà, on le voit qu'en ce moment, on touche aussi bien des personnes qui montent à la journée, par exemple, skier à Fondurle, ou faire des raquettes au départ de l'auberge, que des gens qui viennent en séjour sur la semaine pour les vacances. Et en dehors de ces périodes de vacances scolaires, on est ouvert habituellement du vendredi soir au dimanche, voilà, pour accueillir sur le week-end.
Avec également les animations qui donnent des ponctuations dans ces jours d'ouverture et particulièrement cette période où on voit effectivement cette piste de luge qui semble un bon théâtre pour donner des tons de glisse de temps en temps, c'est ça, le week-end?
Exactement, oui, là, justement, pour cette période des vacances scolaires, on propose les dimanches après-midi les rendez-vous terre de glisse qui sont dégoûtés, disponibles, ouverts à tous, où on propose exceptionnellement des gaufres faites maison et on a une très belle pente de luge juste à côté de l'auberge. Donc on a quelques luges à disposition. L'idée, c'est de pouvoir que les gens puissent venir jouer à des jeux de société, faire de la luge. On a justement aussi des carabines de biathlon laser et on met ça en avant parce que vraiment, ce qui est chouette avec cette pratique, c'est que ça peut se faire également même s'il n'y a pas de neige. Donc ça peut être faire un défi entre amis avec courir sur un petit parcours et ensuite s'essayer à être Martin Fourcade ou Julia Simon en testant le biathlon laser.
Donc on évoquait votre hébergement, restauration. Alors quelle capacité on peut, en ce qui concerne la restauration?
Alors sur la restauration, ça dépend combien on est au service et en cuisine, mais de manière générale, on accueille entre 30 et 50 personnes. Pour le restaurant, pour les hébergements, on a une 40 couchages. Sous ces différentes formules de dortoirs, de chambres individuelles, on a un studio également. Donc voilà, pour proposer des choses différentes. On accueille des groupes, donc aussi bien que ce soit pour des privatisations ou non, que ce soit pour des fêtes privées comme des anniversaires, des départs à la retraite, on a eu déjà l'occasion, ou que ce soit des séminaires d'entreprise ou encore des séjours type stage de yoga ou des choses comme ça. C'est aussi un volet sur lequel on peut répondre ici. On travaille avec d'autres acteurs justement pour accueillir des séjours raquettes, des séjours trail, des séjours yoga, avec un accompagnateur sur ces types de pratiques. Et nous, ensuite, on s'occupe de la partie hébergement, restauration. Ou des séjours loups, notamment. On travaille avec un guide naturaliste, Romain Ribeiro, d'Enquête de Nature, qui fait des sorties aussi bien sur une demi-journée ou quelquefois voilà, des séjours organisés à la découverte de la faune et de la flore du Vercors.
Au chapitre des papilles, justement, c'est quand même quelque chose d'assez important aussi à évoquer. C'est tout l'éventail de produits en harmonie sur votre carte.
Des produits de saison, des produits locaux. On ne va pas forcément proposer des spécialités comme des ravioles ou de la truite. On va en avoir de temps en temps, mais on va toujours essayer de la retravailler un peu différemment que ce qu'on peut trouver d'habitude. L'objectif, c'est d'avoir un éventail de saveurs dans l'assiette. On propose toujours à la carte une vraie option végétarienne qui peut convenir aussi aux non-végétariens, bien sûr. On a toujours au moins entre 2 à 4 choix d'entrée, de plat, de dessert. Soit avoir du gâteau fait maison, des desserts à base de fruits de saison. Enfin voilà, on essaie de travailler le plus possible, partir d'un produit brut qu'on va vraiment travailler avec amour pour pouvoir proposer quelque chose qui nous parle et qui, on l'espère, parle aux gens aussi.
Avec une carte qui change de manière régulière ?
Oui, cette carte, elle évolue très régulièrement. D'ailleurs, on n'a jamais le temps de la prendre par cœur. Puisque, voilà, comme on fait en fonction des arrivages de nos producteurs et des saisons, elle évolue au moins une fois par semaine, quelquefois plus souvent même.
Un pas de côté.
Merci à Emlick de l'Hostel Quartier Libre, donc à Saint-Jean-en-Royans, pour cette visite radiophonique du lieu, au micro de Patrice. L'hostel Quartier Libre qui vient tout juste de basculer en horaire d'automne-hiver, donc pour son auberge et notamment son restaurant, je crois, Cécile.
Oui, tout à fait. Vous pouvez donc fréquenter le restaurant du vendredi 16h au dimanche 16h. Et pour plus d'informations, vous pouvez les joindre au 04 75 48 26 36.
Et on peut suivre également donc toutes leurs actualités, notamment sur leur page Facebook qui est très régulièrement alimentée. Et donc tous les événements sont mentionnés en général sur ce réseau social. Pour notre prochain sujet de reportage, on va parler du Brame du Cerf, Cécile. Avec les sorties Brame du Cerf proposées par Romain Ribeiro, l'animateur guide d'Enquête de Nature. Il aborde donc ses rendez-vous incontournables de l'automne avec le cerf et son puissant brame et nous relate cette période particulière pour les cervidés et les différents rendez-vous d'observation. On écoute.
Un pas de côté.
Bonjour Romain.
Bonjour.
Nous allons observer en votre compagnie, il y a déjà des prévisions de sortie avant d'observer plus précisément sur place un côté automnal et de la faune aussi qui fait écho avec. On parle naturellement du brame du cerf. Romain, vous faites donc partie intégrante de cette structure Enquête de Nature, c'est bien cela ?
Tout à fait.
Et vous nous proposez un calendrier, bien sûr, des observations et plus globalement une curiosité vers la nature.
Voilà, donc l'objectif c'est de contribuer à la découverte de la nature de manière générale, donc sur toute l'année et en fonction des saisons, les thématiques peuvent varier. Donc actuellement, c'est surtout des sorties portées sur le brame du cerf, donc entre fin septembre et début octobre. Pour profiter un maximum des observations.
Alors le brame du cerf, chaque année, ça revient à peu près à la même époque, finalement. C'est précis quand même, les dates.
C'est un phénomène chronique et qui est toujours répété au même moment, puisqu'en fait, c'est la saison de reproduction pour l'espèce, c'est la saison des amours. Et donc pour ça, le cerf va se constituer un groupe de biches, qu'on appelle un harem, pour pouvoir se reproduire. Alors pourquoi il a besoin d'avoir un maximum de biches ? Ce qui va avoir une différence de disponibilité sexuelle entre le mâle et la femelle. Contrairement au cerf qui peut se reproduire plusieurs fois par jour pendant un mois, la biche est féconde entre 24 et 48 heures par an. Ah oui. Comme la fenêtre est très fermée, le cerf a tout intérêt à avoir un maximum de biches à sa disposition, entre guillemets, pour pouvoir saisir le moment opportun, quoi.
et avoir le maximum de chance.
Exactement, pour pouvoir contribuer à à disperser sa génétique et qui entraîne harem entraîne compétition. Donc c'est aussi ça le brame, hein, c'est pour désigner le cri rauque caverneux qui est émis par le cerf, qui a pour fonction principale de dissuader ses concurrents en fait, donc les autres cerfs qui veulent s'accaparer les différentes biches présentes sur le secteur.
Alors chacun marque son territoire d'une certaine manière.
Alors c'est pas vraiment un territoire, c'est plutôt une joute verbale en fait. D'abord avec ce cri, hein, avec le brame. Et auquel cas c'est pas suffisant. Si on a deux cerfs du même gabarit, ça peut entraîner un combat.
Oui.
Donc un combat qui est quand même assez ritualisé. Hein, ça se traduit très peu souvent par de la mortalité. Souvent le cerf le plus faible va se retirer très rapidement. Ça dure quelques secondes, voire quelques minutes. Auquel cas, si l'intensité est plus élevée, un des deux peut mourir suite à une blessure, donc un organe perforé par les bois. Donc c'est l'une de leurs fonctions aussi.
Alors sur le Vercors, bien c'est un cadre idéal pour les observations de ce type d'expérience. On peut parler aussi pour les personnes qui écoutent pour la première fois ce brame du cerf et voient un petit peu ce qui se déroule. Il y a des secteurs privilégiés vers lesquels vous faites participer, vous faites partager votre passion auprès des gens.
C'est vrai qu'il faut pas oublier que le cerf avait disparu au XXe siècle dans le Vercors. Il n'y en avait plus du tout. Donc il a été réintroduit dans les années 50, d'abord par les chasseurs sur différents secteurs du Vercors. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de plus en plus de cerfs. Ici et en France, de manière générale, l'espèce est en développement. Alors chez nous, parce qu'on a un milieu très favorable, il y a de l'espace, il y a des grands massifs forestiers, de la ressource alimentaire. Ça fait qu'il y a des secteurs qui se prêtent plus ou moins pour observer le brame. On pense notamment au plateau d'Ambelle, qui est vraiment une zone de pèlerinage pour une grande partie des cerfs du Vercors, où là on atteint vraiment au moment du brame une densité assez élevée de cerfs mâles qui vont se disputer les différentes places de brame en fait.
Et vous arrivez donc à aussi trouver un lieu où on puisse observer en toute quiétude, sans provoquer de dérangement auprès de la faune.
Voilà, ce qu'il faut pas oublier, qu'on parle de la saison de reproduction, donc il faut avoir une attitude qui est adaptée, donc c'est-à-dire être discret et ne surtout pas envisager de la proximité, déjà, parce que ça peut être dangereux potentiellement, et en plus, on perturbe complètement l'activité de reproduction. Donc d'où l'intérêt pour les néophytes qui souhaiteraient aller un peu plus loin, d'être accompagné d'un guide pour avoir un comportement adapté par la suite, en fait.
Alors comment ça se déroule une sortie avec enquête de nature pour le brame du cerf ?
Alors le déroulement type, c'est qu'on prend le temps au départ de parler un petit peu de l'animal, donc avec des crânes, des bois, des choses comme ça, parler un petit peu de sa situation dans le Vercors. Et ensuite on fait une marche d'approche sur son espace vital en fait, pour étudier un petit peu l'environnement, tout ça. Et ensuite on se dirige sur des points d'observation, donc qui permettent d'observer différentes places de brame. Et là, on va d'abord en profiter pour entendre s'il y a des rares. Donc c'est l'autre terme du brame. Hein. Et pourquoi pas faire des observations pour les soirs les plus fructueux, on va dire.
Au niveau horaire, c'est donc plutôt en soirée, enfin l'après-midi, ça peut concerner aussi toute la journée.
Alors pour l'observation du brame, c'est plutôt le matin et le soir. Après, ils sont plus actifs la nuit. Maintenant, je dis bien maintenant parce que ça s'est décalé suite aux activités humaines, hein, de manière générale. Parce que dans les secteurs où les cerfs sont perturbés au minimum, voire pas du tout, le brame est actif toute la journée, quoi. Après, les sorties que j'encadre, elles se déroulent le soir, de 17h à 20h à chaque fois.
Les précautions à prendre pour suivre une de vos sorties ?
Alors, être équipé d'une tenue discrète, donc des vêtements sombres, ça suffit largement, hein, une tenue chaude, avoir une paire de jumelles, si possible, et puis de ramener un petit peu de chance et d'en profiter.
Un petit casse-croûte éventuellement pour patienter aussi.
Pas forcément, une petite postée, un petit café, quelque chose comme ça. Après, du grignotage, pourquoi pas, mais ça va apporter de l'odeur, du bruit.
Ah oui, c'est pas forcément conseillé.
Voilà, l'objectif, c'est vraiment de favoriser l'observation.
D'accord.
Un pas de côté.
Merci à Romain Ribeiro d'Enquête de Nature, donc pour toutes ces informations concernant le brame du cerf. Donc Romain qui organise des sorties pour aller écouter et observer les cervidés. Est-ce que nous aurions des dates à annoncer d'ores et déjà, Cécile, pour ces sorties ?
Oui, tout à fait. Pour cette première quinzaine d'octobre, vous pouvez donc partir à la découverte du cerf et de son mode de vie avec Romain les mercredis 4 et 11 octobre ou les samedis 7 et 14 octobre. Donc ça se passe en fin de journée entre 18h et 20h. Et si vous avez de la chance, vous les entendrez peut-être bramer et vous les apercevrez aussi peut-être.
Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de participer à l'une de ces sorties ?
Alors non, pas encore. C'est intéressant.
Eh bien moi non plus, alors peut-être très bientôt. Est-ce qu'on a un contact à donner pour Romain ?
Oui, tout à fait. Vous pouvez le joindre pour des informations complémentaires ou réservées au 06 17 21 03 14.
Et on passe tout de suite au dernier arrêt de notre évasion touristique du mois, Cécile. Cela concerne l'exposition « Grand-père, comment t'appelles-tu ?» à découvrir au mémorial de la résistance de Vassieux-en-Vercors jusqu'au 11 novembre. Il s'agit d'un parcours photographique et sonore qui retrace l'histoire de son grand-père de Varsovie à Paris et jusqu'à Auschwitz. On rencontre tout de suite Ethel Buisson, artiste plasticienne et architecte, que Sarah a rencontré lors de l'installation de son exposition.
Un pas de côté.
Vendredi 28 juillet 2023. Je retrouve Ethel Buisson, artiste plasticienne et architecte, dans la salle de l'exposition du mémorial des Vassieux-en-Vercors, où elle est en pleine installation de son exposition « Grand-père, comment t'appelles-tu ?» qui ouvrira le 1er août. La mise en place n'est pas encore achevée et Ethel nous guide à travers l'espace, les objets, les images de cette exposition en train de se faire.
Alors c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui a une profondeur de 20 mètres, qui fait 5 mètres de large et une belle hauteur sous plafond avec de 3,50 m avec un matériau brut au sol et sur les murs, du béton. Et donc c'était extrêmement inspirant pour venir installer des rails de chemin de fer, en quelque sorte reconstruire dans cet espace l'arrivée à Auschwitz d'une très très grande partie des Juifs qui ont été déportés et de fabriquer quelques éléments artistiques, notamment un mémorial avec des traverses et des fluorescents qui sont là pour représenter à la fois donc le train, mais aussi pour représenter le judaïsme par les 7 branches de la menorah qui sont représentées par les fluorescents que vous voyez. L'espace, donc, on est à la fois dans Auschwitz, mais pas que. C'est un endroit où il y a le parcours de mon grand-père que j'ai suivi depuis donc Paris, mais jusqu'à sa ville natale où il est né, qui est juste à la frontière de l'Ukraine, à Ruda. Ça m'a amené aussi à aller jusqu'à Varsovie pour repérer où était là où il est né, repérer la fabrique familiale, repérer les tombes diverses et variées, mais qui sont encore existantes, puisqu'en fait, la problématique de Auschwitz, c'est de ne plus avoir de corps et de tombes derrière, et donc de venir inscrire dans un lieu une commémoration. L'espace, donc, c'est, on peut dire que on est dans un wagon. Littéralement, on rentre dans un wagon. Alors, bien entendu, c'est pas un wagon qu'on va trouver avec du bois, mais c'est bien sûr une transcription artistique, un peu avec une distance. Moi, ça m'intéressait de savoir combien de personnes pouvaient rentrer dans un wagon quand on imagine qu'il y avait 100 personnes qui seront de là à là sur 7 mètres. C'est complètement extraordinaire hein, de se dire qu'il y a à peu près une centaine de personnes. Comment on fait pour rentrer tous dans ce wagon ? Alors, ce travail est un travail vraiment de reconstitution, sans figurant, pour se mettre à la place d'eux, dans les pas d'eux, sur les traces d'eux, et de comprendre au fur et à mesure le cheminement d'une personne. Bien entendu, c'est la communauté, hein, évidemment, mais au travers de mon grand-père, dont je ne connaissais pas le nom, que je découvre pour la première fois au mémorial de la Shoah.
Vous voulez les lire, les noms ?
Alors, Sroul Ruger, moi je connaissais son nom de famille, Ruger, qu'on peut dire aussi Ruger, en allemand, R-U-G-E-R, Et Sroul, c'est le surnom de Israël. Donc moi, je connaissais vaguement son prénom, Israël, mais pas plus que ça. Et je ne connaissais que les récits de ma grand-mère et de ma mère, mais de ma grand-mère essentiellement, Shuma Rugère ou Hélène Rugère, qui a réussi à passer la ligne de démarcation et venir jusque dans le Vercors pour se protéger. Et ma mère, qui avait 8 ans à l'époque, 9 ans, a fait sa scolarité à l'école de Méaudre, l'école de Méaudre qui depuis a pris son nom, qui s'appelle Agnès Rugère-Buisson. La première exposition que j'avais montrée à la mairie du 9e arrondissement à Paris, c'était vraiment sur les traces, sur les pas de Sroul Rugère, et j'avais reconstitué donc date après date. Je me rendais sur les lieux avec mon appareil photo, une chambre photographique, une chambre technique argentique avec un pied, et je photographiais le jour, 70 ans après, des événements traumatique, des arrestations. Quand mon grand-père a pris le train, j'ai photographié la gare de Drancy-Le Bourget. J'ai pris moi-même un train 70 ans après, évidemment. Et j'ai essayé de suivre au plus près le transport, le cheminement de son train pour me rendre donc jusqu'à Auschwitz. Alors moi, je suis passée par Cracovie, parce qu'à l'époque, je n'avais pas connaissance du chemin, je n'avais pas réussi à trouver, et en bus, pour la fin, tandis que lui était allé directement de Katowice, et il n'était pas du tout passé à Cracovie, il était allé directement à Auschwitz. Et quand on arrive à Auschwitz, il y a une rampe que l'on voit ici, dans cette photo, la dernière qui est là, et donc moi-même, je suis allée l'attendre à 15h20. Ou vers 15h, je ne me rappelle plus exactement l'heure, il faudrait que je révise mes horaires, mais moi j'étais là-bas à cette heure précise, et je l'ai attendu parce que lui il a mis 3 jours, et moi j'avais mis un jour et demi en première classe pour certains changements que j'avais, avec une douche, ce que j'imagine qu'il n'avait pas, et là je n'ai fait que enregistrer des sons, parce que le protocole, je photographiais, mais aussi je faisais des enregistrements son. Et là, je n'ai que enregistré parce que je me disais qu'il ne voyait rien du tout depuis son wagon.
Un pas de côté.
Merci à Etel Buisson qui répondait aux questions de Sarah autour de cette exposition « Grand-père, comment t'appelles-tu » au Mémorial de la Résistance de Vassieux en Vercors. Et si on veut donc découvrir par nous-mêmes cette exposition, est-ce que nous avons des horaires à communiquer à nos auditrices et à nos auditeurs, Cécile ?
Oui, tout à fait. Vous pouvez découvrir cette exposition du mercredi au dimanche entre 12h et 17h. À noter toutefois une fermeture exceptionnelle ce jeudi 5 et vendredi 6 octobre.
Et donc l'exposition a été prolongée, je le disais, jusqu'au 11 novembre au Mémorial de la Résistance à Vassieux en Vercors. C'est déjà la fin de notre magazine d'évasion touristique Un pas de côté, le magazine d'évasion en Vercors-Drôme. Vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet radioroyant.fr et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux reportages inspirants. À bientôt Cécile.
Bonne journée et à bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt.
Un pas de côté. Un pas de côté.